Chapitre 1. L'enfance, le temps idéal. Le temps pour être exaucé. C'est au Bénin que j'ai rencontré Serge, petit Africain de 10 ans. Le soir, après le message d'évangélisation, il est venu me demander de prier pour son œil purulent et infecté. Il n'y a rien de plus cruel que de devenir aveugle dans le tiers-monde. C'est affronter un avenir de misère et de mendicité. Je n'étais ni infirmière, ni revêtue d'un don de miracle, mais il me restait à jouer la carte de la foi de l'enfant. Comme il venait d'écouter l'Évangile, je lui ai proposé de mettre sa main sur l'œil boursouflé en disant « Merci Jésus » et de refaire la même chose à son réveil. Le lendemain, dans la foule des enfants excités, j'en ai remarqué un qui semblait exploser de joie. Il s'est approché. C'était le petit Serge. Je ne l'avais pas reconnu tant il rayonnait. Il m'a annoncé sa guérison et je n'oublierai jamais ce qu'il a ajouté. « Jésus, il est gentil. » J'ai prié avec lui pour qu'il reçoive Christ. Il ne demandait pas mieux que de lui donner sa vie. L'enfant a cette faculté de prendre Dieu au mot. N'est-ce pas là la vraie foi? Le temps pour être sauvé. On a demandé à l'évangéliste Moody combien de personnes s'étaient converties lors de sa dernière campagne. Sa réponse, 2,5, a intrigué tout le monde. Interrogé sur la demi-conversion, il a expliqué qu'un adulte s'était converti ainsi que 2 enfants. L'adulte n'apportait à Christ que les restes de son existence. Il en avait déjà dépensé la moitié pour lui-même. Par contre, les 2 enfants consacraient à Christ leur vie entière. Le choix de leurs études, de leur profession, de leur futur conjoint serait ainsi fondé sur le roc. Cet évangéliste voyait le potentiel des enfants. Il avait saisi le sens des paroles de Jésus. « Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous le dis, leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. » Car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Matthieu 18, versets 10 et 11. L'Épître aux Hébreux nous rappelle que les anges sont envoyés pour exercer un ministère auprès de ceux qui doivent hériter du salut. Hébreux 1, verset 14. Je me souviens de ce petit musulman de 11 ans vivant au Burkina Faso. Il m'expliquait avec une profonde tristesse « On a perdu le chemin de Dieu ». Dans sa religion, Dieu était tellement lointain, inaccessible. Oui, les enfants peuvent se sentir perdus loin de Dieu et en être profondément affectés. Dans mon club d'enfants à Lausanne, j'ai été sidéré par la remarque obscène d'un gamin de 7 ans. Dans la bouche d'un adolescent, cela ne m'aurait guère étonné. Mais comment un si petit garçon pouvait-il proférer de telles horreurs? En y réfléchissant, j'ai réalisé qu'il avait dû avoir accès à des vidéos porno. C'est pour de tels enfants que Jésus est venu. Qu'en pensez-vous? Si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laissera-t-il pas les 99 autres dans la montagne pour aller à la recherche de celle qui s'est égarée? Et s'il réussit à la retrouver? Vraiment, je vous l'assure. Cette brebis lui causera plus de joie que les 99 autres qui ne s'étaient pas égarés. Il en est de même pour votre Père céleste. Il ne veut pas qu'un seul de ses petits ne se perde. Matthieu 18, versets 12 à 14. La conclusion de cette parabole et des textes qui la précèdent suggèrent bien qu'un enfant peut aussi être cette brebis perdue. À ce sujet, le prophète Ésaïe, annonçant le Sauveur, nous donne une piste de réflexion intéressante. Voici, la jeune fille sera enceinte, elle enfantera un fils, elle lui donnera pour nom Emmanuel, Dieu avec nous. Il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il apprenne à rejeter le mal et à choisir le bien. Ésaïe 7, versets 14 et 15. Selon ce texte, l'âge du sevrage correspond à celui de la connaissance du bien et du mal. À l'époque, les enfants étaient sevrés tardivement. Dès qu'un enfant choisit sciemment de mal agir, il a besoin du Sauveur. Seul Jésus, Emmanuel a refusé le mal et choisi le bien. Il a toujours parfaitement obéi. Lui seul peut sauver l'être humain de sa pernicieuse tendance à s'opposer aux voies de Dieu. Le plus tôt est le mieux. Le temps pour être béni. Étonnamment, les disciples sont les premiers à faire barrage entre Jésus et les enfants. Ils s'imaginent rendre service au Seigneur en le protégeant de leur désagréable intrusion. Dans leur zèle, ils blâment aussi les parents. Mais le Seigneur s'indigne. « Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les en empêchez pas. » Matthieu 19, verset 14 a. Pourquoi réagissent-ils ainsi? Les paroles que le Christ vient de prononcer ne résonnent-elles pas encore en eux? Celui qui accueille en mon nom un enfant comme celui-ci m'accueille moi-même. Matthieu 18, verset 4. C'est une chose d'entendre et c'en est une autre de comprendre. Le message est si radicalement opposé à leur culture. En effet, dans la société juive de l'époque, les enfants sont en bas de l'échelle sociale. Il est impensable de les laisser importuner un homme aussi important que le Messie. Pourtant, ce dernier les serre dans ses bras et prend le temps de les bénir. Le temps pour s'engager. Vous, vous avez tout, mais en Afrique, certains enfants n'ont rien. Ils souffrent de la faim et n'ont presque aucun vêtement. Du haut de mes 8 ans, j'étais indigné par cette parole de notre responsable du catéchisme. Pourquoi avais-je tout alors que d'autres n'avaient rien? Je me suis promise que lorsque je serai grande, j'irai les aider. Le temps a passé et j'ai oublié ma promesse. J'étais surtout préoccupée par la réussite de mes études et le choix d'une profession. Mais juste avant l'examen final, Dieu m'a rappelé que même si je l'avais délaissé durant mon adolescence, il m'aimait toujours. Malgré tout ce que j'avais pu dire ou faire, il m'appelait à revenir à lui. 9 mois plus tard, je m'embarquais pour une tournée missionnaire en Afrique. Mon entourage en a été stupéfait. Cela ne correspondait en rien à ma personnalité si casanière. Cela a été le début de nombreux voyages sur ce vaste continent où j'ai appris à travailler avec petits et grands. J'ai eu la joie d'y former des centaines de moniteurs et de démarrer avec eux des clubs d'enfants dans une dizaine de pays, ce qui a beaucoup contribué à enrichir mon travail en Suisse et en France. Dieu n'avait pas oublié la promesse secrète de mes 8 ans. Même si, de mon côté, je n'aurais jamais imaginé un tel parcours, il correspondait pourtant bien à des forces insoupçonnées qui dormaient au fond de moi. Dieu savait que si je l'invitais à régner sur ma vie, il m'aiderait à dépasser toutes mes limites. Oui, le Seigneur se réjouit lorsque des enfants prennent position. C'est le moment idéal, car, à cet âge-là, ils choisissent de suivre la droiture au détriment de tout intérêt égoïste. Dieu voit leur potentiel, mais les adultes le voient-ils? Le temps pour investir. Actuellement, nous faisons de sérieux efforts en faveur des enfants qui fréquentent nos églises. Nous leur consacrons du temps, de l'énergie, des finances. Le problème est qu'ils ne représentent qu'un faible pourcentage de la population enfantine. Le célèbre « Laissez venir à moi les petits-enfants » s'adresse-t-il seulement à ceux qui sont déjà dans la bergerie? L'ultime commandement du Seigneur n'est-il pas clair? Allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Marc 16, verset 15. Quel est donc notre engagement envers les enfants qui se trouvent en dehors de nos églises? Leur donnons-nous la possibilité d'entendre la bonne nouvelle? La gestion de nos finances nous révèle où se trouve notre cœur. L'évangélisation d'enfants requiert des moyens. Sonorisation, location de salles, littérature, matériel pédagogique. J'ai constaté qu'à l'instar des disciples, beaucoup refusent d'investir quand il s'agit d'enfants. Pourtant, lorsque ce même travail concerne des adultes, des dispositions sont prises. Investir pour le salut d'enfants extérieurs à l'Église ne semble guère gratifiant. Ils n'apporteront ni dîmes ni offrandes, et de plus, ils seront une charge. Et puis, même s'ils se convertissaient, Ils n'ont pas de pouvoir de décision, ne votent pas, n'ont aucun poids dans la société. Ces pensées ne sont pas exprimées aussi crûment. Toutefois, l'absence de budget les concernant démontre un désintérêt certain à leur égard. Bref, cela ne paraît pas très rentable. Et pourtant, le temps des grands enjeux. Si nous ne nous occupons pas des enfants non chrétiens, ce sont eux qui vont s'occuper de nos enfants. Cette perspective devrait alarmer responsables et parents. Qui influence le plus l'enfant jusqu'à 12 ans? Ce sont les parents et les instituteurs. Oui, mais ensuite? Ce sont ses copains. L'adolescent a un besoin vital de se sentir accepté par le groupe. Il veut impérativement s'habiller, parler, penser et vivre avec et comme les autres. Quels sont les maîtres à penser de ce milieu? Les médias, la mode, les groupes rock, rap, techno et compagnie. Voici quelques normes du socialement correct qui sapent leur foi. Être chrétien, c'est ringard, c'est faire preuve d'un sous-développement mental. Il faut être nul pour avaler l'histoire de la Genèse, quand tous les profs soutiennent en cœur la thèse du Big Bang. Être honnête aujourd'hui, c'est juste bon pour les faibles, pour ceux qui sont incapables de se faire une place au soleil. Être dans le coup, c'est avoir un ou une petite amie et faire ses expériences sexuelles. Être cool, c'est fumer un joint. Comment s'étonner si près de la moitié des jeunes chrétiens quittent leur église? Ils vivent dans une société où presque tous les repères sont opposés à la foi. Au XIXe siècle, l'Angleterre a été secouée par une terrible crise économique. Alcoolisme, prostitution et chômage ravageaient le pays. Au cœur de cette tourmente, William Booth, fondateur de l'Armée du Salut, s'est écrié « L'important, c'est l'enfant, car le monde de demain sera modelé par l'enfant d'aujourd'hui. » Si nous voulons des lendemains sans sida, sans drogue, sans terrorisme, c'est aujourd'hui qu'il faut les préparer. Mais comment relever un pareil défi quand nous parvenons à peine à assumer le catéchisme? Le temps de passer à l'offensive. L'évangéliste Bill Wilson, responsable d'une église de 24 000 enfants, nous invite à nous attaquer aux copains de nos enfants avant qu'ils ne s'attaquent à nos enfants. En d'autres termes, prenons les devants. Évangélisons les amis de nos enfants avant que ceux-ci ne détournent nos enfants de la foi. C'est une question de vie ou de mort pour l'Église. En allant prêcher l'Évangile dans le coupe-gorge du Bronx, à New York, là où le nom de Dieu n'est prononcé que dans les jurons, Bill Wilson a démontré la pertinence de cette stratégie. Comme la plupart des enfants sont hors des églises, il les a rejoints là où ils vivent, c'est-à-dire dans la rue, sur les places, au cœur de leur quartier. Son message sans compromis, dénonçant publiquement le mal, a bouleversé leur cœur. 20 ans de ministère ont fait une incroyable percée dans ce milieu de drogue et de prostitution. La police et les autorités confirment que beaucoup de jeunes osent enfin se détourner de la violence et de l'argent facile. Malgré de tels exemples, nombre de chrétiens demeurent réticents quant à l'évangélisation des enfants. Pour certains, leur annoncer l'évangile serait une façon subtile de les manipuler. Mais la neutralité est un leurre. Que se passe-t-il lorsque nous ne touchons pas à un jardin? En peu de temps, il devient une jungle, remarque l'Herlis de Benoît. Si nous ne semons pas la bonne graine, l'ivraie se développe. Croiser les bras face à une génération en recherche de vraies valeurs, c'est la livrer entre les mains du dieu argent, du dieu sexe, du dieu drogue, du dieu désespoir. Nous n'avons pas seulement le droit de parler de Christ, nous en avons le devoir. La théorie du « plus tard » équivaut souvent à « trop tard ». Pour faire de réels choix, l'enfant a besoin d'être informé. Comment pourrait-il se déterminer sans être mis en contact avec l'Évangile? La vraie manipulation consiste à ne pas lui en parler, ou à ne lui prêcher que des valeurs morales, oubliant que, sans la nouvelle naissance, elles sont sans force. Le temps de les prendre au sérieux. Alors que nous cherchons une stratégie pour les enfants de l'extérieur, nous devrions simultanément en avoir aussi une pour ceux de nos églises. Au travers de son rôle pastoral auprès des jeunes, Dale Kaufman faisait partie du fer de lance d'un réveil sur la côte ouest des États-Unis. Au cœur de l'action, le Seigneur lui a demandé de donner sa démission. Il a obéi. Dieu passait avant son ministère, aussi gratifiant soit-il. Ses collaborateurs étaient déçus. Certains se sentaient trahis. Leur incompréhension s'est accentuée encore lorsqu'ils ont appris que Dale allait désormais superviser l'école du dimanche. Avait-il été rétrogradé à cause d'une faute cachée? Ou avait-il craqué sous le poids des responsabilités? Sans s'inquiéter des commérages, Dale, confiant, s'attendait à recevoir des directives du Seigneur. Il a commencé par enseigner aux enfants l'écoute de la voix de Dieu, ce qui n'a pas tardé à bouleverser leur vie de prière. Il les a aussi conduits dans une nouvelle dimension de l'adoration, puis de l'intercession pour ceux qui sont perdus. Les enfants eurent rapidement le désir d'évangéliser, car il est difficile de prier pour des conversions sans s'impliquer. C'est ainsi que le ministère international des King's Kids ou Fabricants de Joie, FIJ, a vu le jour. Aujourd'hui, ce mouvement entraîne chaque année plus de 110 000 enfants et adolescents dans de multiples actions hautes en couleur qui démontrent l'amour gratuit de Dieu. Tous les enfants s'impliquent personnellement et deviennent ainsi ouvriers avec Christ. Au Togo, toute l'équipe FIJ priait pour obtenir un véhicule pour leur tournée de 5 semaines. En se rendant à la piscine, une petite de 7 ans remarqua un magnifique bus de 52 places, parqué devant l'hôtel. Persuadée que ce véhicule serait parfait pour transporter les 50 équipiers jusqu'au Mali, elle décida de le réclamer au Seigneur. Ses parents la laissèrent prier, alors qu'une telle location dépassait largement le maigre budget de l'équipe et qu'aucun des chauffeurs ne possédait le permis de transport en commun. Ils se renseignèrent. Le bus appartenait à l'université. Ils honorèrent la foi de leur fille en déposant une demande auprès du ministère concerné. Les jours passaient. Aucun moyen de transport n'avait pu être trouvé. Fallait-il annuler la tournée? Sans se décourager, la petite insistait auprès du Seigneur matin et soir. Elle y croyait, ce bus était leur bus. La veille du départ, la réponse tomba. Le bus leur était gracieusement prêté pour 5 semaines avec son chauffeur. À leur départ, la route fut ouverte par les motards de la police devant des enfants ébahis. De telles expériences font d'eux des témoins convaincus et parfois contestés. En France, alors qu'une équipe se produisait lors du Printemps de Bourges, festival de musique rock, des punks ivres se sont mis à siffler et à brailler au beau milieu de la chorégraphie présentée par les 7-8 ans. Les petits ont continué à danser, mais de grosses larmes coulaient sur leurs joues. La responsable a coupé la sono et a regroupé sa petite troupe. « Vous avez eu peur ?»« Non, mais cela nous fait mal de voir comment ils rejettent Dieu. » La compassion des enfants est étonnante. Ils ont le cœur de Dieu pour un monde perdu. Donnons-leur l'occasion de s'engager et de prendre leur place comme de vrais disciples. C'est le moment idéal. À l'instar de leurs collègues francophones, les 3/4 des missionnaires anglophones se sont convertis au cours de leur enfance.